Et on va se poser la question de quel doit être notre positionnement face à la critique. Alors je vais vous expliquer, je reviens de vacances. On revient de vacances avec Mounir, où c'était super. On est parti en Isère, à la montagne, avec notre chien, on a fait du sport, on a vraiment vécu un bon temps de vacances, comme on les aime. Et on est parti avec des amis. Voilà, on est parti entre amis, des amis de toujours, un meilleur ami que je connais depuis 2 ans et demi, et puis des amis qu'on connaît maintenant depuis 10 ans. On les connaît bien, on sait vivre ensemble. On s'est toujours vanté de pouvoir se dire les choses cash, se reprocher les choses sans que ça soit un souci. Et c'est vrai qu'on a cette capacité-là. Mais, pendant les vacances, on a vu les limites de cette chose dont on se vantait. On se vantait de pouvoir se critiquer sans s'offenser. Mais il y a eu une limite pendant les vacances. Cette critique a fait un peu de mal. Donc, je vais vous expliquer. Vous savez que je suis chrétienne, jusque-là vous suivez. Okay. Et pendant nos vacances, nous sommes allés passer une nuit en refuge. Okay. Donc c'est sympa, on est vraiment au milieu de la montagne, on entend les loups, aouh ! Et voilà. Et ce chalet était tenu par un couple dont la femme est kinésiologue. Kinésiologue. C'est une nouvelle pratique, oui. Moi, je connaissais un peu ce terme de kinésiologie parce que beaucoup, beaucoup de gens font appel au kinésiologue lorsqu'ils ne vont pas bien. Et la source de la kinésiologie, c'est de la médecine chinoise où on va venir faire des points d'acupuncture et d'acupression pour comprendre quel traumatisme on a vécu dans la vie et qui va pouvoir dire, le kinésiologue va par exemple toucher le coude et va dire, bah, dans ton enfance tu as vécu ça, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Et on était rentrés de ce refuge, on était rentrés et on était à une terrasse juste avant de faire une partie de pétanque. Voilà, tranquille, on mange sa gaufre au chocolat. Et il y avait ma sœur qui était là et ma meilleure amie. Et elle commence à parler de la kinésiologie. Et puis, moi, je ne dis rien. Parce que je sais que ça ne va pas forcément aller dans mes convictions. Alors, je ne dis rien. Et tout d'un coup, bien sûr, bah, toi, Ève. Bon. À un moment donné, bah, je dis, ben. Bah, de ce que je connais de la kinésiologie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. De ce que je connais de la médecine chinoise, mais je peux me tromper, je ne suis pas une experte de la médecine chinoise, eh bien, il y a ça, 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 et il y a un lien avec le taoïsme, qui est une religion-philosophie de la Chine. En fonction de mes convictions propres, ce n'est pas une pratique que moi je ferais, parce que je ne voudrais pas commettre une erreur, voilà. Et elles ont commencé à parler aussi du yoga et tout ça. Et tout en fait, ces pratiques-là, sans vouloir entrer dans les débats parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui, moi personnellement, je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir une source spirituelle. Et quand on dit source spirituelle, il faut savoir à quoi on a affaire. Est-ce qu'on est dans la source spirituelle bonne ou mauvaise ? Et comme j'en suis pas sûre, eh ben je m'en préviens et je ne le fais pas. Et en fait, ma sœur et ma meilleure amie font du yoga. Mais elles ont le droit de le faire. C'est leur choix. Moi, mon choix est différent en fonction de mes convictions. Mais elles l'ont mal pris. Ma position et ma conviction, elles l'ont pris comme une critique de ce qu'elles font. Et elles ont terminé en me disant que j'étais fermée d'esprit, qu'avec moi, on ne pouvait pas discuter. Et là, j'ai monté d'un ton. J'ai monté d'un ton. Et je leur ai dit, ce n'est pas moi qui ai fermé d'esprit, mais c'est vous. Le fait que je sois chrétienne vous dérange. Moi, que vous fassiez du yoga, ça ne me dérange pas. Mais vous n'acceptez pas ma position. Donc s'il y a quelqu'un qui est fermé d'esprit, c'est vous. Et là, elle dit, oh, Heureusement, alors, les hommes sont toujours là pour essayer de calmer. Et donc, il me dit, oh, il ne faut pas le prendre comme ça. Et je dis, si, je le prends comme ça, parce que vous avez dit que j'étais fermée d'esprit, il faut assumer ce que vous dites. Et ça m'a blessée, ça me blesse que vous pensiez ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui est bien ouvert sur la spiritualité, c'est bien moi. Mais pas à tous les esprits, non. Je ne suis pas ouverte à tous les esprits. Je suis ouverte à l'Esprit Saint, voilà. C'est tout. Et après, on a fait une partie de pétanque. Doudou et moi, contre ma meilleure amie et Tony. Ma meilleure amie, donc, a grandi dans la religion catholique, mais aujourd'hui, elle est anti-Jésus, elle n'y croit pas, c'est que des bêtises. Pour vous dire, à un moment donné, en fait, ma fille, en allant à la cathédrale de Strasbourg, elle avait acheté un petit dessin dans un petit livre en bois où il y a Jésus et à côté, il y a Marie. Bon, voilà. Et à un moment donné, c'est tombé dans les mains de ma meilleure amie. Elle m'a dit, oh, tiens, prends ça, je vais faire une crise. Je l'ai pris, j'ai souri, je n'ai rien dit. Et donc, ma meilleure amie, elle ne croit plus en Jésus, elle est même contre Jésus. Et pendant la partie de pétanque, j'avais envie de lui foutre sa raclée. Lui prouver que j'ai raison et qu'elle a tort. Et qu'en plus qu'elle s'attaque à Jésus, j'avais envie de lui foutre sa pâtée. Mais vraiment. Alors nous allons faire mon procès. C'est-à-dire que... Alors je ne vais pas vous demander forcément ce que vous en pensez, parce que si vous commencez à dire des trucs, peut-être que je vais prendre comme une critique et une offense, je ne vais pas me sentir bien. D'accord ? Mais on va quand même se poser des questions par rapport à cet exemple-là. C'est un exercice pratique que je vous propose. Et j'espère que ça vous parlera. Là, tu peux cliquer. On peut se poser cette première question. Vas-y. Cela vaut-il la peine d'entamer une conversation perdue d'avance ? Jésus parlait-il à des personnes qui, d'apparence, ne sont pas réceptives ? Non, merci. Et nous demande-t-il de le faire ? Est-ce qu'il nous demande de parler à des personnes où on sait avec qui c'est perdu d'avance ? Alors, c'est bien, vous avez déjà votre avis. Deuxième question. J'appuie sur quoi ? Ah, merci, super. Deuxième question. Avons-nous le droit de parler avec plus de fermeté, quitte à être plus dur dans nos propos ? Jésus a-t-il fait des reproches ? Et troisième question. Ai-je bien fait de vouloir jouer l'existence de Dieu par une partie de pétanque ? Est-ce que j'ai bien fait de jouer le fait que Dieu existe vraiment par le fait de gagner une partie de pétanque ? Bien. Alors, vous savez, on ne va pas répondre directement à ces questions, on va les prendre à la fin. Et lorsque qu'on prépare un message, on prie. Et j'avais vraiment peur que ce n'était pas cela que je devais vous dire. Je ne devais pas vous parler de la critique parce que ce n'est pas un thème facile. Prêcher sur la critique, c'est bizarre. Alors j'ai prié, et lorsque j'ai prié, tout de suite en esprit, j'ai vu trois références bibliques. Marc 7, Luc 10, Isaïe 8. C'était comme une manière de vérifier que c'était bien ça. Alors j'ai lu, et ça va, je ne me suis pas trompée. Le Seigneur veut que je vous parle de comment nous gérons la critique. Alors on va d'abord étudier Marc 7. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien. J'ai pas mis Marc 7 parce que c'était trop petit alors, mais c'est Marc 7. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblent auprès de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas ce que c'est les pharisiens ? Ok. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens, et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases des reins et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Pourquoi ils font ça ? On va regarder la réponse de Jésus. Mais lui, répondant, leur dit « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. » Comme il est écrit, « Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Bien. La première question, Jésus a-t-il fait des reproches ? La réponse est oui. Oui. Et il n'y va pas de main morte. Alors, on va d'abord un peu décortiquer. La première chose, on voit que dans la toute première partie, là, on a une explication des rituels de purification juifs qu'on peut retrouver chez les musulmans aujourd'hui et chez les juifs orthodoxes. Et Marc explique cela. Pourquoi ? Parce qu'il parle à des païens. Et les païens ne se lavent pas les mains avant de manger. Ok ? Donc il explique que pour les juifs, c'est normal de faire ça. Mais il dit que c'est des traditions. On peut se poser quand même la question. À cela, les pharisiens posent une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ne se lavent pas avant de manger. Cette question, d'un prime abord, elle me semble correcte. Lorsqu'on est juif, lorsqu'on a appris à laver ses mains, lorsqu'on a appris à faire ses ablutions, lorsqu'on a appris que Dieu, c'était la volonté de Dieu de faire ça. Pour moi, lorsque je lis cette question, ça ne m'étonne pas qu'un juif pose cette question-là. C'est quand même choquant pour un musulman. Moi, mon beau-père, à chaque fois, il me dit « Mais Ève, va te laver les mains avant de manger. » Ce qui est quand même plus propre, on est d'accord. Ok. Mais là, le problème, ça n'est pas ça. C'est que Jésus discerne derrière cette question la volonté du cœur. Et la volonté du cœur des pharisiens, elle n'est pas tendre, elle n'est pas gentille, c'est du jugement. Les pharisiens sont en train de juger les disciples de Jésus sur un geste. Et là, Jésus leur dit complètement la vérité. Et Jésus leur reproche clairement de mal comprendre la volonté de Dieu et de s'attacher même à enseigner un mensonge. C'est-à-dire que l'homme est capable de retenir une règle, d'en faire la porte d'entrée au paradis, alors que la porte d'entrée au paradis, c'est pas ça. C'est pas ça. La porte d'entrée au paradis, c'est une relation avec Dieu. Juste après, si vous continuez de lire Marc 7, Jésus explique que ce qui rend pur ou impur, ce n'est pas ce que nous mangeons, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Se laver les mains, bah oui, c'est une bonne chose, bien sûr. Bien sûr que se laver les mains avant de manger, c'est une bonne chose. Bien sûr que d'aller se laver, c'est quand même mieux que de rester tout sale. Hein, ça rapporte des maladies, on est bien d'accord. Mais le plus important aux yeux de Dieu, c'est notre cœur. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça le plus important. Or, les pharisiens sont en train de dire que ses disciples ne sont pas des juifs, ne sont pas des croyants. Tu n'es pas un croyant parce que tu n'obéis pas aux règles. Et là, Jésus dit stop. Qui es-tu pour juger de son cœur ? Parce que tu juges avec tes yeux, mais moi je sais ce qu'il y a dans le cœur de mes disciples. Et ils sont attachés à Dieu. Ils sont peut-être pas parfaits, mais au moins, ils réfléchissent à la volonté de Dieu. Alors, une deuxième chose que je voudrais noter là-dessus, c'est que Je ne sais pas vous comment vous l'avez accueilli, ce qu'il dit, lorsqu'il dit « Hypocrite !» Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Leur cœur, complètement à côté de la plaque. Hypocrite. Comment c'est... C'est envoyé, hein. C'est vraiment envoyé. Il déclare une vérité et il remet les choses à leur place. Il remet l'essentiel au cœur des choses. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il a vraiment dit hypocrite? Est-ce que vraiment il a osé dire aux représentants de la religion juive, c'est pas quand même, c'est comme si nous on allait voir les cardinaux et on leur disait hypocrite, hypocrite que vous êtes. Qui oserait faire ça parmi nous? Alors je suis allée voir le texte en grec et le mot c'est alors c'est hypocrites, ça ressemble, et ça signifie celui qui dissimule, un acteur. Jésus donc, le Saint-Esprit, vous savez, il y a un des dons qui est le discernement. Jésus a discerné tout simplement le cœur de ces pharisiens. Et ils étaient en train de dissimuler. C'est comme quelqu'un vient vous voir et dit « Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu fais ci, tu fais ça. » Et puis derrière, en fait, une bonne critique. C'est un bon jugement. Hein? On ne dit pas clairement les choses, mais derrière ça... Jésus n'aime pas cela. Jésus n'aime pas cela. Il n'aime pas la duplicité de cœur. Alors Jésus ne se cache pas devant les pharisiens. Mais il dit clairement la vérité tout en sachant les conséquences de ses paroles. Et là, il y a une question. Est-ce qu'on sait, nous, faire comme lui? Est-ce qu'on assume lorsque nous proclamons la vérité? Je sais que ce que j'ai dit à mes amis, c'est vrai. Mais pendant 3-4 jours, j'en pouvais plus. Il n'y a pas longtemps, ma sœur m'appelle et me traite d'égoïste, d'une manière plus ou moins édulcorée. Mais j'ai discerné ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que j'étais égoïste, et mon mari encore plus. Ma sœur que j'aime, qui appartient à Christ. Aujourd'hui, je lui ai dit la vérité cette fois-ci, c'est ma grande sœur, vous savez quand c'est les grandes sœurs, on n'ose pas dire quand on est la dernière. Mais là, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je lui ai dit que je n'acceptais pas qu'elle me traite d'égoïste. Bref, aujourd'hui encore, je suis mal dans mon cœur. Est-ce que nous savons assumer les conséquences de la vérité? Alors, deuxième référence que le Seigneur m'a donnée en prière. Luc 10. Alors, le contexte, c'est que Jésus envoie les disciples deux par deux et il leur demande d'annoncer la bonne nouvelle. Et il leur dit, « Mais dans quelque ville que vous soyez entrés et qu'on ne vous reçoive pas, sortez dans ces rues et dites, la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. » Mais sachez ceci, que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que le sort de Sodome sera plus supportable en ce jour-là que celui de cette ville-là. Et après, il fait une liste de toutes les villes d'Israël, qui, comme Capharnaüm ou d'autres, qui ne vont pas recevoir la bonne nouvelle. Et là, il dit, vous allez prendre cher. Et là, je me dis, vous savez, c'est des parties de l'évangile que personnellement, j'ai un peu de mal. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la sensation que c'est un peu méchant. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas méchant. Si nous croyons en la parole de Jésus, Jésus nous parle. et nous dit les choses. Ça va se passer comme ça. Et je pense à ma meilleure amie, et je pense à elle, et je pense aux personnes qui n'ont pas fait le pas vers Jésus, qui ont vu le royaume s'approcher. Ils l'ont vu, ils l'ont perçu, ils l'ont senti, mais ils n'y sont pas allés. Je pense à eux, et ça me fait mal. Et pourtant, dans cette parole, il dit « Dites, dites-le, dis-le à ta meilleure amie ce qu'elle risque. » Mais j'ai peur d'être méchante. J'ai peur que ce que je vais dire, c'est de la méchanceté. Alors je ne le dis pas. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Si nous croyons en Jésus, c'est vrai ce qu'il y a là, ce qui est marqué là. Jésus nous parle d'un jugement qui va venir. Et on peut se poser la question, est-ce que quelque part on ne trouve pas ça trop dur ? Et nous sommes là à crier après la justice de Dieu. Dieu, je veux que tu me fasses justice. Mais lorsqu'il le fait, on trouve ça trop dur. Ce sont des bonnes questions à se poser. Est-ce que nous acceptons que Dieu nous fera justice ? Et pas forcément dans une partie de pétanque. Ça sera peut-être un peu plus dur qu'une partie de pétanque. Ou est-ce que nous avons peur de son jugement ? C'est comme un fil de funambule de marcher dans l'amour de Dieu et dans la justice de Dieu. Mais il nous le dit clairement. Dites, c'est un ordre. C'est un ordre qu'il nous demande. La question, c'est est-ce que clairement j'aurais osé empirer mon cas ? Est-ce que face à ma sœur, qui ne veut pas voir le côté négatif de la spiritualité, j'aurais osé empirer mon cas ? Ben non, franchement, j'ai pas envie. Déjà, je mets 3 jours à me remettre quand ma sœur me fait une réflexion et que j'ose lui dire que c'est faux. Si je dois encore plus empirer mon cas, je vais faire comme Élie, je vais repartir à la montagne. Je vais prendre mon mari parce que lui, quand même, il est plutôt supportable. Et puis, je vais vivre une vie d'ermite. Nous devons aussi nous poser cette question du mérite. Lorsque nous trouvons que le jugement de Dieu est trop dur, est-ce qu'on n'est pas encore en train de se dire « Mais quand même, il ne le mérite pas. Hein. Quand même, cette personne-là, quand même, elle a fait du bien toute sa vie. C'est une bonne personne. Elle aide les plus démunis, elle donne plein de sous, elle est gentille, elle fait pour que tout aille bien autour d'elle. Bon, elle ne croit pas en Jésus. » Enfer. Et puis lui là, il a fait que des saloperies tout le long de sa vie, il a été pédophile, il a été je sais pas quoi, il a fait des abominations. Ah, puis 2 minutes avant, il donne sa vie à Jésus, puis c'est bon. C'est quoi cette histoire ? Il est où le mérite ? Il mérite pas cet homme. Nous avons des questions à nous poser. Et on dit souvent, j'entends beaucoup de personnes dire, ce n'est pas une question de mérite, c'est vrai. Parce que si on est dans la pédagogie du mérite, ça veut dire que nous enlevons le fait que nous sommes tous pécheurs. Et que nous gagnons notre paradis par nous-mêmes. Et alors on annule la croix. Pas besoin de la croix. Si on peut gagner son paradis. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même une petite question de mérite, même si je trouve que le mot est très mal dit et que je pense que ça ne plaira pas à tout le monde ici. Et ça ne plaît pas à moi-même non plus, mais je n'avais pas d'autres mots. Jésus nous demande de croire en ce qu'il a fait à la croix. Et que du coup, ça nous amène vers la vie éternelle. Est-ce que ça n'est pas une question de mérite ? Tu mérites d'aller au paradis parce que tu crois en moi. Je ne pense pas que ça soit le bon mot. Je pense que Jésus nous dit, si tu mets tes pieds en moi, dans ce que j'ai fait, les conséquences sur ta vie sera la vie éternelle et la vérité. Et ça, ça va transformer toutes les choses. Donc ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de si tu manges des chips, tu vas grossir, mais si tu manges des fruits, alors la vie viendra. Quel chemin veux-tu emprunter ? Veux-tu emprunter un chemin de vie ou veux-tu emprunter un chemin d'erreur ? Et les conséquences de ces lois spirituelles que Dieu a mis en place de toute éternité parce qu'il est a une conséquence sur nos vies. Donc on n'est pas dans une stratégie de mérite, on est dans une stratégie de tes choix ont des conséquences. Mais j'avais pas d'autres mots pour vous le faire comprendre. Et enfin, moi ce qui m'a fait du bien, c'est quelques versets après, Jésus dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Et je me suis dit « Ah, t'es avec moi. Je suis pas bien là, mais t'es avec moi. » Vous savez, après toutes ces histoires, je parlais avec mon mari. Je parle beaucoup avec mon mari. Et dans le lit, j'ai dit « J'en ai marre d'être cette porteuse de vérité et de m'en prendre plein la tronche. » À peine j'ai dit ça, j'ai senti le Saint-Esprit attristé dans mon cœur. C'est comme si je fermais la porte au Saint-Esprit en disant « Je ne veux plus porter ce que tu es. C'est trop dur, j'y arrive pas. J'en ai marre de m'embrouiller avec les gens autour de moi. Est-ce que c'est moi qui ai un problème à toujours devoir dire toujours la vérité, et puis boum, je m'en prends plein la tronche. » Jésus est la vérité. Il nous appelle à porter ce qu'il est. Et il est avec nous. Alors, j'accepte, quelque part, de ne pas avoir le caractère encore totalement formé pour traverser cette souffrance qui est de dire la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement formée. Ok, ça va ? Ça va ou pas ? Très bien. Alors on va continuer. La dernière, c'est Isaïe 8. 6, pardon. Alors, je vous explique le contexte. Oh, c'est tout petit. Ah, oh, désolé. Alors, je suis désolée. Je croyais que j'avais que des personnes de la vingtaine d'années. Et... ah ben non. Alors... D'abord le contexte. Isaïe est un prophète, c'est-à-dire qu'il portait le message de Dieu au roi d'Israël. Il a porté 4 ou 5 rois où il a porté le message de Dieu. C'est une période où le roi soit écoutait le prophète, soit n'écoutait pas. Et là, clairement, il n'écoutait pas du tout Isaïe et il devait faire des choix stratégiques au niveau géopolitique. Le roi avait décidé de s'allier avec l'Assyrie, qui était le plus gros empire du croissant fertile. C'est comme si nous, on s'alliait avec les États-Unis. Voilà, les États-Unis, hop, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Et donc, Isaïe dit, vous êtes le peuple de Dieu, et vous vous confiez plus en l'Assyrie qu'en Dieu. Ça va vous retomber dessus. Il y aura des conséquences. Pas de question de mérite. Il y a des conséquences à ces choix. Et voilà ce qu'on peut lire. Et l'Éternel me parla encore, disant, parce que ce peuple rejette les eaux de Siloé qui vont doucement et qu'il trouve son plaisir en Retsin et dans le fils de Ramalia. Je vous explique. Retsin et les fils de Ramalia, ce sont les fils des rois d'Assyrie. Okay, donc, et les eaux de Siloé, ce sont des eaux douces et calmes en Israël, où il fait bon vivre. Donc il est en train de dire, parce que ce peuple rejette ce que Dieu donne comme bénédiction, et qu'il trouve plus de plaisir dans des pays étrangers où on loue des idoles, à cause de cela, voici le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, et il montera sur tout son lit et s'en ira par-dessus tous ses bords. Et il traversera Juda, il débordera et passera outre. Il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Il est en train de parler à Jésus. Ô Emmanuel, à cause de l'infidélité de ton peuple, parce qu'il croit que l'Assyrie est réellement un allié, l'Assyrie se retournera contre eux et vous serez totalement envahis. Vous n'avez pas confiance en moi. C'est dur, hein ? On n'aime pas trop entendre les trucs comme ça durs, on préfère parler d'amour. Moi aussi, hein. Dieu dit quelque chose de très clair. Il prévient depuis longtemps, depuis très très longtemps. Il est patient. Il prévient son peuple des conséquences de son infidélité. Il prévient depuis longtemps au danger de s'associer à des mauvaises personnes ou à des mauvais dieux, à des mauvaises pratiques. Après, je vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais il dit qu'il faut vraiment pas s'associer à des peuples qui ne représente pas qui est Dieu. Il dit, attention parce que votre foi sera un rocher contre lequel vous allez buter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas renier qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas renier que vous faites partie du peuple de Dieu. Et quand on continue, il dit à un moment donné, je vais lire tout simplement, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. C'est-à-dire qu'il demande à Ésaïe de lire et de dire. Et je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face de la maison de Jacob, et je l'attendrai. Dieu décide de se taire. Dieu décide d'être silencieux. Ça vous est jamais arrivé, vous, de vous demander, mais pourquoi Dieu ne fait rien ? Je me demande souvent parfois pourquoi je ne vois pas plus de guérison ici. Quand je dis ici, je dis en France. Pourquoi je ne vois pas plus les miracles de Dieu ? Il y a clairement des moments où Dieu se tait. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour signe et pour prodige en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeurent en la montagne de Sion. Nous là, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. C'est déjà un honneur. Et s'ils vous disent, donc si d'autres personnes nous disent à nous là, enquérez-vous des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonnes aventures qui murmurent et qui chuchotent. Un peuple ne s'enquiert-il pas de son Dieu ? Ira-t-il aux morts pour les vivants ? La loi est au témoignage. S'il ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. Qui d'entre vous n'a pas été tenté une fois d'aller voir une voyante, d'aller voir les spirites, de faire du spiritisme ? Moi-même, j'ai été voir une voyante, j'ai fait le pendule, je suis allée voir tout ça. Pourquoi ? Parce que je trouvais que Dieu n'était pas assez à l'œuvre. Je l'avoue, j'ai demandé pardon, ne vous inquiétez pas. Tenons bon quand Dieu se tait, quand Dieu ne fait pas. Restons le son peuple bien-aimé. Accrochons-nous à ce qu'il nous dit qu'il y aura un jugement. Alors on va terminer par reprendre les trois questions du départ. Quel conseil on peut en retenir de tout ça ? Cela vaut-il la peine d'entamer une conversation perdue d'avance ? Jésus parlait-il à des personnes qui d'apparence ne sont pas réceptives ? Nous demande-t-il de le faire ?
Oui.
Oui. je ne suis pas sûre que les pharisiens soient repartis en disant « Ah, oh, mais Jésus, tu es la vérité. » Tu compris ? Non, il est mort sur la croix. Hein ? Oui, ça vaut la peine de parler à des ânes qui ne veulent rien entendre. Et j'ai eu cette conversation avec un autre ami pendant les vacances. Il me disait « Mais Ève, pourquoi tu t'entêtes à dire quelque chose à une personne qui ne t'écoutera pas ?» Parce que la vérité doit toujours à un moment donné être dite. Parce que toute personne doit être prévenue. Avons-nous assez de foi pour croire que Dieu va vraiment nous juger ? Et de pouvoir dire par amour à ceux qui nous entourent, attention, attention, où vas-tu passer ton éternité ? Ce matin, je me suis réveillée avec une chanson de Jean-Louis Aubert qui dit « Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. » Rien d'autre à laisser croire, rien. Nous sommes ici pour croire et pour dire notre foi. C'est la seule chose que nous avons à faire sur cette vie. Alors oui, continuons à parler à ceux qui sont dans la voyance. Continuons à parler à ceux qui ne se posent pas des questions et qui disent « Non, mais le plus important, c'est que ça ne me fasse pas de mal. » Ben, aujourd'hui peut-être, mais un jour peut-être, ça sera différent. Deuxième question. Avons-nous le droit de parler avec plus de fermeté, quitte à être plus dur dans nos propos ? Jésus a-t-il fait des reproches ? Alors, vous diriez quoi ? Oui. Oui. C'est OK pour les reproches. Mais attention. Attention. J'ai mis quand même des petites réserves. Jésus discernait bien les choses. On me dit souvent, on m'a souvent dit, oh, c'est la forme qui compte. Mais c'est totalement faux. Est-ce que vous croyez que Jésus a dit, oui, vous savez, messieurs les pharisiens, je vous honore beaucoup pour la fonction que vous avez auprès de mon peuple, mais j'aimerais que vous repensiez exactement à votre question, parce que il me semble que éventuellement il y a peut-être un petit jugement envers mes disciples qui risque de leur faire mal au cœur. Il dit ça, Jésus ? Il était quoi ? J'ai pas entendu. Ah oui, c'est ça, il n'était pas wokiste. Non, non. Hypocrite. Ok. Donc, il faut arrêter de dire que c'est la forme qui compte. Ce qu'on veut dire, on le dit. Si nous avons, c'est pas ça qui compte, c'est pas la forme qui compte. Ce qui compte, c'est ça. Le reproche doit porter la vérité de Dieu. Est-ce que ce que tu dis est vrai ? Est-ce que tu as pris le temps d'être sûr à 100% et d'avoir l'approbation de Dieu que le reproche que tu t'amènes à dire est vrai? C'est là, c'est ça qui est important. Alors comment on fait pour savoir? Déjà, on peut porter la vérité si on laisse notre caractère être transformé. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, en même temps que Dieu va transformer notre caractère, on va devenir de plus en plus clairvoyant et on va de mieux en mieux discerner les intentions de cœur. Une fois qu'on discerne les intentions de cœur, il y a aussi une chose très importante. Pour porter la vérité, il faut être humble. Pourquoi ? Parce que si nous nous attachons à la vérité, alors nous acceptons lorsque notre frère ou notre sœur vient nous voir et vient nous dire « Tu as fait ci, tu as fait ça, et ça a eu telle conséquence sur ma vie. » Si nous sommes porteurs de vérité, nous regardons si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Et si c'est vrai, nous devons immédiatement demander pardon. Et vite. Nous ne pouvons avoir cette capacité de nous remettre en cause que si nous acceptons de nous rabaisser et de nous dire à un moment donné « J'ai fait une bêtise. » Et ça, c'est dur. Ma meilleure amie est incapable de le faire. Et j'attends. Mon mari m'a dit à un moment donné « Arrête d'attendre, elle ne le fera pas. » Elle ne le fera pas, elle est fière. Elle ne le fera pas, arrête d'attendre, arrête de souffrir pour quelque chose que tu sais qu'il n'arrivera pas. Est-ce que je suis en train de juger mon ami quand je dis que son caractère n'est pas à l'image de Dieu ? Non. Et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que j'aimerais qu'elle vienne me voir pour demander pardon. Même moi, je suis allée la voir à un moment donné pour lui dire « Pardon, allez, on s'en fout. Je t'aime, c'est plus important. » Et puis, il se peut que notre vérité fasse mal. Et en cela, on peut demander pardon. Je suis vraiment désolée, je te demande pardon si la vérité de Jésus te fait mal. Donc d'abord, notre caractère doit être d'accord pour porter la vérité. Et ça, c'est dur, hein ? Alors, quel conseil pour vérifier qu'un reproche est vrai ? Hein ? Quel fait ? Des faits concrets. Ok ? Des faits. C'est-à-dire qu'on peut le vérifier. Deuxième. Sur quelle théorie nous basons-nous ? Il est sûr que si nous nous basons sur la théorie de Jésus et de ce qui est écrit dans la Bible, nous allons forcément être en désaccord avec certains principes de ce monde. Ça semble plutôt logique. Donc, on a un choix à faire. Quelle est notre référence ? Et attention aux émotions qui peuvent nous induire en erreur. Je ne dis pas que c'est pas bon d'avoir des émotions. On a des émotions, Dieu nous a créés avec des émotions, et c'est bon. Et elles sont, toute émotion est appelée à être exprimée. Mais attention, est-ce que l'émotion, c'est-à-dire, par exemple, quand ma sœur elle m'a appelée, je sais que ma sœur ne va pas bien en ce moment. Elle va pas bien. Du coup, est-ce que ce que tu ressens est vraiment la vérité ? Ou est-ce que c'est juste lié au fait qu'en ce moment tu n'ailles pas bien ? Est-ce que ton regard des choses n'est pas un peu perturbé par le fait que tu n'ailles pas bien ? Prends le temps. Prends le temps de savoir si c'est juste une émotion qui brise l'interférence de connexion. Et nous aussi, hein, en tant que chrétiens, nous, parfois, nous n'allons pas bien. Nous devons prendre le temps de savoir si notre reproche est vraiment véridique, il est attaché à la vérité de Dieu, ou est-ce que, non, c'est juste parce qu'on va pas bien. Ok. Et la dernière question. Ai-je bien fait de vouloir jouer l'existence de Dieu par une partie de pétanque ? Ceux qui gagnent ont raison. La réponse est Non. Et même quand j'étais en train de jouer la pétanque, je disais à Dieu, écoute Seigneur, Saint-Esprit, si tu me fais gagner la partie pour lui en foutre plein la tronche, eh ben je dirai rien. On gagnera et puis je dirai rien, comme t'as fait. Ben, vous savez quoi ? À un moment donné, on était à 12, on allait gagner. Ben oui, on a perdu, c'est sûr. On a à 12 et quand on arrivait à 12, j'ai dit, non, j'ai crié un gros « Amen !» Tiens, douce dans ta face, amen. Et là, j'étais reprise par le Saint-Esprit. Je dis, ouh, j'avais dit que j'allais rien dire. C'était plus fort que moi. Là, et on a perdu. Ah, mais c'était très serré, hein. On était à. Hein ? Ah non, mais au début, on était à 10-0. À 10-0. Ils ont tout remonté. Après, on était à 11-12. Puis à un moment donné, boum, ils ont mis 2. Et puis on a perdu. Et là, j'ai dit à Mounir, je fais, oh, Dieu n'existe pas. Et il a rigolé. Exactement, c'était ma volonté à moi, et surtout c'était le fruit d'une mauvaise gestion de mes émotions.
Alléluia.
J'étais en colère. Dieu ne veut pas que nous gérions la critique par une mauvaise gestion de nos émotions. Ça nous demande de marcher avec assurance. Marcher avec assurance, il y aura un jugement, il y aura une justice. Toi, fais ce que je te demande, dis ce que je te demande de dire. Garde ton calme et ta confiance. J'y arrive pas, je dis à Jésus, j'y arrive pas. Et c'est là où on prie, on dit, Seigneur, fais, œuvre dans mon cœur, travaille encore mon caractère. Je dois voir ma sœur la semaine prochaine, je suis comme ça. Garde ton calme et ta confiance. Et alors mon mari dira, c'est peut-être très féminin tout ça. Nombre de nos amis nous disent quand même, les femmes sont très 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 fortes pour se prendre la tête pour des queues de poire. C'est peut-être que la femme discerne ce qui se cache derrière et que la femme a envie de vérité. Je ne sais pas. Et je ne voudrais pas régler mes torchons avec mon mari devant tout le monde. Il existe vraiment un jugement et une justice. Et nous devons nous cacher sous l'aile de cette justice. Nous devons apprendre à marcher avec assurance, à garder le cœur tendre tout en ayant le front dur. Alors voilà, si vous vous êtes senti concerné par ce message et que vous aussi, vous avez besoin que le Seigneur vous aide à mieux gérer la critique pour pas que ça devienne une galère, eh bien, vous pouvez vous associer avec ma prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, on t'aime. On t'aime pour ce que tu es. Pour toute l'histoire qui s'est accomplie du début et qui se terminera à la fin. On t'aime parce que tu es mort pour nous et que tu nous dis, voilà, je vous aime, je meurs pour vous. Ne croyez pas qu'il y a une question de mérite. Reconnaissez qui je suis, confiez-vous en moi. Seigneur Jésus, on se confie en toi pour que tu nous aides à marcher avec assurance et à trouver la vérité lorsqu'on nous critique. Je te demande, Seigneur, que les personnes ici puissent reconnaître lorsqu'ils font des bêtises, je m'inclus, et qu'ils puissent vite demander pardon. Donne-nous cette capacité, Seigneur, à vite demander pardon lorsque nous avons commis une erreur ou lorsque nous avons blessé quelqu'un sans même nous en rendre compte. Seigneur, fortifie-nous lorsqu'on nous critique pour quelque chose qui est faux, lorsqu'on nous juge alors que ce n'est pas vrai. Fortifie-nous pour porter haut et fort ta vérité et réclamer justice sur cette injustice. Seigneur Jésus, donne-nous de savoir que tu es notre rocher et que lorsqu'on nous rejette, c'est toi qu'on rejette. Et que tu nous portes à ce moment-là. Seigneur Jésus, donne-nous, s'il te plaît, la force de pouvoir dire la vérité et de prendre le temps de discerner ta vérité. Conduis-nous vers les verts pâturages, ce chemin que nous attendons tant. Et fais de nous ce peuple qui sait attendre. Amen.